Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. L'instant M est à consommer sans modération.
Et on coupait ?
Non, je coupe.
Vous êtes en direct, allez-y.
Attention à bien choisir votre vocabulaire quand il est question de vin. Et je ne parle pas du joli jargon de l'œnologie qui fera dire d'un verre de rouge qu'il est nerveux ou rond en bouche. Non, je parle de politique et des mots employés dans les médias. Prenez la loi Evin qui entendait lutter contre l'alcoolisme et le tabagisme. On a beaucoup entendu qu'elle était clarifiée, surtout pas qu'elle était assouplie. Non, assouplir une loi de santé publique, ce serait trop moche. Et pourtant, l'assouplissement de la loi Evin est l'une des victoires du lobby du vin. Si vous voulez savoir très concrètement en quoi consiste le travail de lobbying, rendez-vous demain soir sur France 2. Complément d'enquête y consacre un reportage éclairant et accablant quand les professionnels du pinard murmurent à l'oreille des gouvernants.
L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Alexandra Collineau.
Bonjour.
Bienvenue, c'est vous la journaliste qui signait ce reportage diffusé demain 22h50 sur France 2. Lobby du vin, l'ivresse du pouvoir. Alors le salon de l'agriculture bat son plein en ce moment à Paris. Vous êtes persona non grata dans les allées où exposent les vignerons français?
Non, et je ne suis pas invitée non plus, je ne suis pas allée.
C'est un entre-deux subtil. On reparle de ce reportage dans un instant, juste après un coup d'œil à l'actualité des médias. Cinquième jour de manifestation en Algérie, hier contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un nouveau mandat de président. Et la nouveauté, c'est que le mouvement a été évoqué par les médias publics.
À l'intérieur des enceintes universitaires et ses environs, des étudiants manifestaient pacifiquement et dans un cadre organisé, tout en étant encadrés à l'extérieur par les forces de l'ordre. Ces manifestations interviennent après les marches organisées vendredi passé à travers plusieurs villes du pays.
Le ton est très prudent. Extrait du JT sur Canal Algérie, ça n'a pas fait l'ouverture du journal. Le nom de Bouteflika n'est jamais prononcé, mais on en a parlé. La radio aussi, et c'est une première. En début de semaine, les journalistes de la radio publique algérienne ont dénoncé la censure imposée par leur hiérarchie. Les manifestations étaient complètement passées sous silence. En Australie, c'est l'affaire George Pell qui continue de faire réagir. L'annonce de la condamnation de ce cardinal ancien numéro 3 du Vatican a été retardée par la justice. Les journalistes n'avaient pas le droit de parler de sa condamnation pour crimes sexuels sous peine de poursuite. Une restriction au droit d'informer qui est inscrite dans la loi australienne. Le juge peut limiter la diffusion d'informations sur un procès en cours. Des voix s'élèvent en Australie pour que s'impose le principe de la justice ouverte. Et puis Netflix poursuit son opération séduction auprès du public européen. Le géant américain du streaming vient d'annoncer un documentaire sur Antoine Griezmann. À l'origine du projet, on retrouve Alessandra Sublet, l'animatrice française qui avait rencontré le footballeur de l'Atlético Madrid pour un premier documentaire diffusé à l'époque sur TMC. Celui de Netflix sera diffusé le 21 mars prochain. Son titre est des plus sobres, Antoine Griezmann, champion du monde.
Si vous me dites qu'il y a un enjeu de santé lié à la consommation excessive d'alcool, je vous dis, oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je suis d'accord avec ma collègue et amie Agnès Buzyn. Le débat intello, un peu bobo, si vous me le permettez.
En quoi c'est un débat intello ?
Parce que chez moi, on ne se pose pas la question.
De la santé ? On ne se pose pas quelle question ?
Je suis allé beaucoup sur le terrain cette semaine. Personne ne m'a parlé de ça.
Est-ce que vous êtes un peu le porte-parole du lobby, donc de la filière ?
Moi, je suis le porte-parole d'aucun lobby. Quand j'ai été nommé à ce ministère, j'ai dit « aucun lobby n'entrera dans ce ministère ».
Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, à votre micro, Alexandra Collineau, c'est donc à voir demain soir sur France 2. Sa parole est importante parce que c'est une déclaration récente de ce ministre qui vous pousse à enquêter sur le travail de lobby des professionnels du vin. Le vin est-il un alcool comme les autres ?
Alors, on avait commencé l'enquête un tout petit peu avant. Et le vin, est-ce que le vin est un alcool comme les autres ? C'est tout le débat. C'est-à-dire Agnès Buzyn, il y a un an, avait dit précisément l'inverse. Elle s'était fait taper dessus.
C'est Didier Guillaume qui affirme que le vin n'est pas un alcool comme les autres.
Voilà. Et lui, Alors, il reprend, ce sont en tout cas les mêmes termes que le lobby. Est-ce que lui, il affirme qu'il n'est pas un porte-parole du lobby. Lui, il se positionne du côté de la filière et il défend un intérêt économique quand il dit ça. C'est-à-dire qu'il dit que le vin, c'est aussi un produit culturel, il parle de terroir et il le joue aussi beaucoup quand il dit que c'est un débat de bobo et d'intello de dire que le vin est un alcool comme les autres.
Mais c'est un débat qui est aussi vieux que la vigne française. Je disais que le vocabulaire est très important. On supporte assez mal quand vous demandez à vos interlocuteurs s'il y a eu de la pression, par exemple. On parle d'information auprès des gouvernants.
Oui, ça, c'est des mots-clés des lobbies en général. On ne dit pas pression, on dit pédagogie. C'est des mots-clés, ça veut dire la même chose, quel que soit le lobby, quel que soit le sujet. Là, c'est de la pédagogie, c'est de la démocratie, on fait des débats.
Voilà. En 2015, pendant le mandat de François Hollande, la loi Evin, loi pour lutter contre l'alcoolisme et le tabagisme, a donc été modifiée. Et le tourisme œnologique a eu le droit de faire de la pub à la télé. Voilà ce que ça donne, un programme court baptisé « Une minute, un vignoble ».
Avec 65 appellations, le vignoble de Bordeaux offre une grande diversité de terroirs, renommés ou plus confidentiels. Laetitia, on travaille la vigne depuis longtemps dans cette région.
Oui, ça fait 2 millénaires. L'histoire du vignoble est étroitement liée à celui de la ville de Bordeaux et son fleuve.
Qu'est-ce qui fait la renommée du vignoble de Bordeaux ?
On a un très grand terroir qui est propice à la culture de grands cépages. On est très fiers d'être parmi les premiers à travailler le Merlot, le Cabernet et le Sauvignon.
Bordeaux se réinvente et son vignoble aussi.
Voilà, il faut saluer le courage de complément d'enquête sur ce dossier parce que vous épinglez ce programme court qui s'appelle Une minute, un vignoble, qui est diffusé sur France 3, donc sur France Télévisions, hein, comme vous. Alors, ça ressemble à de la pub sur France 3, je crois, ou sur France 2 d'ailleurs.
Ça a été diffusé sur France 2, sur France 5 et sur France 3.
Ah, voilà. Ça ressemble à de la pub cachée pour le vin, bien sûr. Qui fabrique ce programme ?
Alors, c'est une idée de Vin et Société qui a fait appel à une société de production.
Donc, Vin et Société, c'est une association.
C'est une association, pardon, qui est le lobby de la filière viticole et qui est très fier de ce programme alors qu'il ne le produit pas en tant que tel mais qu'il y a une société de production entre eux et France Télévisions mais c'est une idée du lobby.
Alors on ne parle pas de vin dans ce programme, on montre des paysages vinicoles.
Voilà, on parle de région, on parle de tradition, on parle de tous ces mots-clés de terroir encore une fois en disant que c'est absolument formidable et on ne parle pas ça contourne en fait le fait de faire de la publicité pour du vin. On ne parle pas de vin ni du fait de consommer, mais on fait de la publicité pour des régions.
On est là vraiment dans une des conséquences concrètes de ce travail de lobbying de l'association Vin et Société, Alexandra Collineau.
Oui, ça permet en fait d'organiser du terrain sur ce qu'interdisait ou ce qu'interdit encore la loi Evin. C'est-à-dire que la loi Evin a encadré il y a une vingtaine d'années la publicité sur l'alcool. Dans le même temps, alors est-ce que il y a une conséquence, on ne sait pas précisément, mais dans le même temps, la consommation de vin a beaucoup baissé. Et donc le lobby, cette association Vin et Société, son travail, c'est de repêcher les consommateurs, quoi, en gros, et de gagner du terrain sur ce qu'interdisait la loi Evin. Et c'est une façon de gagner du terrain, de contourner.
Que reste-t-il de la loi Evin et qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui que ce détricotage de la loi est une conséquence du travail de cette association?
Alors, de la bouche même de Claude Evin, il reste plus beaucoup de choses dans sa loi sur le thème de l'alcool, hein, sur le tabac, ça a été préservé. Mais sur l'alcool, c'est peu à peu vidé. Il y a encore des interdictions de publicité. Alors, justement, l'interdiction de publicité pour du vin à la télé en tant que telle.
En citant des marques, étant plus
frontal. Exactement, exactement. Ou dans des publications pour les jeunes, ce genre de choses. Mais clairement, le lobby et la filière a gratté du terrain un peu partout. On peut à nouveau voir des campagnes d'affichage dans la rue. Sur Internet, c'est possible. Voilà, il y a tout un panel de publicité possible.
Alors, vous êtes retourné voir Claude Evin des années après. Il s'est retiré de la politique. Il est désormais avocat. Et la déclaration récente d'Emmanuel Macron l'a franchement agacé.
Je peux vous dire très clairement, il n'y aura pas de durcissement de la loi Evin. On n'a pas besoin de ça. S'il y a des jeunes qui se saoulent, etc., ils ne se saoulent pas au vin français. Il faut qu'on arrête d'emmerder les Français avec ces choses.
Il faut qu'on arrête d'emmerder les Français. Des mots qui font bondir l'ancien ministre de la Santé.
Il ne s'agit pas d'emmerder les gens, il s'agit de créer un environnement qui n'incite pas à la consommation. Je veux dire, les gens sont beaucoup plus emmerdés quand ils ont un cancer lié à une consommation excessive d'alcool, hein, que parce qu'on a réglementé la publicité.
Alors, quand le président déclare qu'il faut, je le cite, arrêter d'emmerder les Français, vous reconnaissez la patte de l'association Vin et Société. Pour quelle raison ?
En tout cas, les mots sont très semblables parce que il y avait une campagne de communication de Vin et Société et notamment de son ancienne déléguée générale Audrey Bourrelot quelques années auparavant qui disait on ne va pas arrêter de saouler les Français sur les interdictions.
Avec un très joli jeu de mots. Hein. Voilà. On ne saoule plus les Français avec les problèmes de santé que pose le vin.
Exactement. Et Audrey Bourrelot, la déléguée générale à l'époque de Vin et Société, avait reçu même un prix de la revue Vin, la revue française du vin, pour cette campagne de com. Et il se trouve qu'Audrey Bourrelot, maintenant, est conseillère agriculture d'Emmanuel Macron. Elle a été nommée au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Et dans son panel de conseils, il y a forcément la filière viticole. On reconnaît les mêmes mots. Est-ce que les amis dans la bouche du président, on ne sait pas, mais on reconnaît en tout cas le même vocabulaire.
C'est un personnage important de votre reportage, hein, Audrey Bourrelot, effectivement ancienne numéro 2 de cette association de lobby, aujourd'hui conseillère d'Emmanuel Macron. Elle a bien le droit de changer de boulot, après tout.
Oui, c'est ce qu'on m'a répondu d'ailleurs quand je demande à l'actuel président de Vin et Société, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts, parce qu'évidemment c'est la question qu'on se pose. Il me dit, elle a juste changé d'employeur, c'est comme si vous passiez de France 2 à TF1, où est le problème ? Quand on dit qu'il y a un intérêt public d'un côté et un intérêt privé de l'autre, c'est pas du tout quelque chose qu'ils entendent et qu'ils reconnaissent.
Officiellement, elle ne s'occupe pas d'ailleurs de cette filière en particulier.
Elle reçoit la filière sous toutes ses formes, pas que le lobby. Donc ça fait partie de ses compétences de conseil. Par contre, elle n'a pas le droit d'intervenir clairement dans la vie de Vin et Société, quoi, maintenant qu'elle est conseillère. Mais elle peut les recevoir.
La haute autorité de la transparence s'en est mêlée, a émis un avis là-dessus. Hein.
Oui, assez tardif d'ailleurs, parce que c'est un avis de déport, c'est-à-dire effectivement faire attention qu'elle se mêle pas des affaires de Vin et Société très directement, qui a été émis en septembre 2018 uniquement, donc longtemps après sa nomination. Ça ne l'interdit pas de les recevoir. Par contre, elle les reçoit avec la conseillère santé du président, donc pas en tête à tête, mais elle peut voir, tout comme elle voit les élus du vin, etc. Elle les rencontre.
La préoccupation d'Audrey Bourrelot, lorsqu'elle était lobbyiste du vin, c'était de diffuser des kits dans les écoles. Voici ce qu'elle déclarait récemment lors d'une conférence à la Cité du Vin.
Nous, à Vin et Société, on est allé voir le ministère de l'Éducation qui nous a dit c'est impensable, on a été taxé de vouloir aller quand même vendre du vin dans les écoles. Donc on a vu qu'on n'y arriverait pas politiquement. Donc on s'est associé à une maison d'édition pour contourner finalement les règles.
Pour contourner les règles, elle a signé un partenariat publicitaire avec des supports bien connus de l'édition Jeunesse. Les fiches Les Incollables et le journal Mon Quotidien.
Et c'est ainsi que le vin est entré dans les CDI, dans les bibliothèques scolaires. Voilà qui banalise le vin dans la consommation courante. Et je dois dire que c'est vraiment le passage le plus percutant de votre reportage, Alexandra Colino. On ne soupçonne pas vraiment que la communication du vin est entrée à ce point dans les écoles.
Oui, alors c'est sous couvert de pédagogie sur la vigne, sur les saisons. Et pourquoi pas, d'ailleurs, c'est important que les enfants sachent comment on produit du raisin, enfin le cycle de la vigne. Sauf que derrière, effectivement, il y a, en tout cas c'est ce que dit par exemple Agnès Buzyn, quand elle voit les kits et que je lui présente...
Elle les découvre. Elle n'en avait jamais entendu parler.
Non, elle existe depuis quelques années d'ailleurs, et elle dit, elle est choquée, elle dit que c'est une banalisation effectivement du vin, et c'est probablement l'objectif, en tout cas, c'est de faire rentrer le vin dans la culture dès la maternelle, parce que ces kits commencent dès la maternelle.
Jamais il n'est écrit l'alcool est dangereux pour la santé, le vin contient de l'alcool, donc le vin est dangereux pour la santé. Pourtant, c'est un sophisme de base. Hein.
Voilà. Alors après, Vin et Société, eux, ils font les kits avec Les Incollables et Mon Quotidien, les kits pédagogiques qui sont dans les écoles, c'est les interprofessions. Alors c'est plus la base, c'est les producteurs de vin qui le font. Quand on leur pose la question, ils nous répondent oui, bah ça c'est le bon sens, c'est aux instituteurs de faire le job et de dire que c'est dangereux pour la santé, c'est pas à nous.
Voici précisément ce que vous répond le directeur de l'Académie de Gironde.
Si on était en Savoie ou en Haute-Savoie, on sensibiliserait à la filière du fromage.
À aucun moment dans ces kits, on dit qu'il y a de l'alcool et que l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Là-dessus, qu'est-ce que vous répondez quand un médecin formule cette inquiétude, par exemple ?
Non, mais après, le médecin, il peut former des inquiétudes sur à peu près tout, y compris sur l'air qu'il respire et sur l'eau en bouteille qu'il boit. Donc, c'est assez effrayant dans le monde dans lequel on vit qu'on cherche à créer des problèmes partout.
On cherche à créer des problèmes partout. Elle vous a surprise, la réponse de ce directeur d'académie?
Elle était un peu plus développée, d'ailleurs, on n'a pas tout gardé, mais où il me disait, oui, ben, on va pas, ce que je lui disais, mais le fromage n'est pas dangereux pour la santé, c'est tout l'enjeu. Il me disait, oui, ben, c'est comme si on arrêtait de parler du soleil parce que ça donne des cancers de la peau. Ça ne le choque pas du tout. Vraiment, pour lui, c'est un outil pédagogique, quoi. Et il n'y voit pas de mal. Oui, c'est surprenant, ouais.
Il y a le reproche permanent de prôner une société hygiéniste, oui. Hein, c'est ce qu'on vous répond toujours?
Toujours. C'est l'argument du lobby. Les médecins qui râlent contre le lobby, ou parfois les ministères de la santé, sont taxés d'hygiénistes ou de prohibitionnistes. C'est l'argument général du lobby du vin.
Bon, le vin en France, ça représente tout de même 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est le deuxième marché français à l'exportation. L'enjeu est colossal, Alexandra Colino. C'est pas seulement une histoire de défendre des intérêts privés.
Oui, non, c'est pas, et puis c'est pas seulement une histoire.
500 000 emplois aussi.
Ouais, 500 000 emplois au sens large, hein. Ça comprend aussi les cavistes, les négociants, etc. Évidemment, il y a un enjeu économique. Et ce que disait Claude Évin, d'ailleurs, c'est que dans ce jeu-là qui oppose souvent les ministres de l'économie ou de l'agriculture au ministre de la santé, c'est souvent l'économie qui gagne contre la santé parce que le poids économique est plus fort dans la balance.
Quoi. Mais chacun est dans son rôle, hein. C'est ce que vous répond Agnès Buzyn. Moi, je suis dans mon rôle quand je dis, quand je parle de santé publique, et lui, quand il défend la filière. Finalement, il n'y a pas de contradiction pour le gouvernement.
Il n'y a pas de contradiction. Elle est très prudente. Elle était un peu moins avant et je pense qu'elle ronge son frein un petit peu. Enfin, voilà. Mais chacun, effectivement, défend sa part, quoi.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous au cours de cette enquête sur le travail des groupes d'intérêt, des professionnels du vin?
De joindre Audrey Bourrelot, parce qu'elle est injoignable, évidemment. Alors, aussi parce que les conseillers, pas que elle,
donc la conseillère d'Emmanuel Macron.
Voilà, les conseillères agriculture, les conseillers ne parlent pas aux journalistes, mais donc elle était absente, quoi. Après, il a fallu convaincre les gens du lobby de parler, ça a été... Voilà, ça a pris un peu de temps, voilà, ce qui a été le plus compliqué.
Emmanuel Macron, dans son discours d'inauguration du Salon de l'agriculture, a affiché récemment son ambition de faire du vignoble français le premier vignoble au monde. Sans glyphosate, ça doit déjà donner lieu à un intense travail de lobbying en face.
Alors voilà, il va y avoir d'autres lobbies. Il y aura le lobby de l'agriculture et des pesticides qui vont entrer en jeu. C'est une bataille de lobby qui va se jouer.
Lobby du vin, l'ivresse du pouvoir, c'est donc demain soir jeudi sur France 2 dans Complément d'enquête présenté par Jacques Cardoz. Et ce sera suivi d'un portrait du Baron Rouge, hein, Pierre Castel, 92 ans, fils d'ouvrier agricole qui a fait fortune dans le vin. Les caves Nicolas, c'est lui. La villageoise, c'est lui. Le Baron de l'Estac, c'est lui aussi. Un homme très riche et très discret, hein, lui aussi, comme Alex, Audrey Bourrelot. Reportage diffusé juste après le vote, donc ce sera demain soir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alexandra Colino, et très bonne journée. Grand bien nous fasse, Ali Rebeilly est arrivé. Bonjour Ali.
Bonjour Dorothée Barba, comment ça va?
Ça va fort bien. Quel est le programme de l'émission?
Ce que la voiture raconte de nos sociétés. Ça tombe bien en pleine crise des gilets jaunes qui est née, hein, d'un problème autour de la voiture, la limitation de vitesse à 80 km/h, les taxes sur le carburant. Donc on va essayer de comprendre ce que la voiture raconte de notre société française.
Et en plein pic de pollution, exactement, si on ne respecte pas la circulation alternée, on appelle Ali Rebeilly pour raconter qu'on...
Vous connaissez le numéro?
01 45 24
7000, le numéro mythique de France Inter.
Juste après les infos.